France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Comment devient-on un auteur populaire quand vos parents ne parlaient pas français? Comment trouve-t-on sa place quand ils vous ont légué un sentiment d'usurpation? Qu'est-ce qui se joue dans le choix d'un prénom, Tonino ou Jean, Clara ou Yolande? Voilà quelques questions qui traversent Porca Miseria, le dernier livre de Tonino Benacquista, l'auteur de Saga, de L'Outre-Mangeur, de Scénario pour Jacques Audiard aussi. Dans ce livre, il raconte l'arrivée de sa famille en France, 54, l'hiver le plus froid du XXe siècle, sa naissance quelques années plus tard, et l'enfance, l'adolescence et au-delà d'un fils de Rital, Mutique, le père, parce qu'il abuse de sa production personnelle tirée d'un raisin chasselas blanc, la mère, parce qu'elle reste sidérée d'avoir quitté sa terre natale. Au fil des pages, on mesure l'importance dans l'enfance d'un gamin né en 61 en banlieue parisienne, de la télévision, de Gottlieb et Goscinny, des passages chez le coiffeur, de Cyrano de Bergerac, du roman noir, bref, de la culture populaire. Aujourd'hui encore, écrit Benacquista, de César, publié chez Gallimard, bardé de prix à tous les étages, sur l'idée de culture, j'envie ceux qui savent séparer le bon grain de l'ivraie. J'en suis toujours incapable. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions à notre invité du jour. Bonjour Tonino Benacquista.
Bonjour.
Je voudrais qu'on commence par deux scènes marquantes de ce livre. Alors dans la famille, vous êtes le petit dernier, vous êtes né 10 ans après votre sœur Yolande, vous êtes le seul né en France. C'est la scène du médecin. Vos sœurs quittent la maison, c'est vous qui restez seul et qui jouez auprès de votre mère l'interface entre elle et le reste du monde. Et un jour, vous devez aller chez le médecin un peu loin de chez vous. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, je m'aperçois qu'en fait, je parle le mieux le français qu'elle.
Ouais. Quoi.
Et à ce moment-là, elle était censée me guider jusque-là. Enfin, voilà, voilà, une mère accompagne son enfant. Et en fait, elle ne reconnaît pas le nom des rues parce que c'est pas un quartier qu'elle connaît. Elle est perdue et elle n'ose pas demander son chemin. Et puis elle le réduit au nom du médecin.
Ouais.
Voilà, ah, voilà, c'est le docteur un tel. Alors elle dit juste le nom. Et puis on passe pour des bizarres, franchement. Donc à un moment donné, je prends les choses en main. Et je dis voilà, je vais essayer de trouver l'adresse par moi-même. Et puis je vais nous ramener à la maison.
Et à propos de main, il y a cette image. Vous sentez sa main à elle se crisper dans la vôtre.
Ouais, c'est comme une passation, quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire que voilà, moi, ma main est tenue par celle de ma mère, et puis à un moment donné, c'est moi qui tiens la sienne parce qu'elle est perdue. Elle est plus perdue que moi, en tout cas. Et donc, je me suis aperçu à ce moment-là que, bah voilà, ce sera moi qui les aidera à faire cette interface. Voilà.
De quand date le passage à l'âge adulte? Je sais dater en tout cas le jour où j'ai perdu confiance en ma mère.
Oui, parce qu'à un moment donné, tous les deux se sentaient démunis, et voilà, il a fallu être plus responsable. Mais en même temps, comme je suis né en France, comme j'étais le seul d'ailleurs de la famille à être né en France, peut-être que c'était à moi de le faire. Voilà. De les rassurer, je veux dire.
À propos de vos parents et de la langue de vos parents, je voudrais vous faire écouter une archive de Lino Ventura, qui parlait de la façon dont sa mère parlait. Je vous propose de l'écouter.
Je suis arrivé, j'étais seul avec ma mère, n'est-ce pas?
Elle avait créé une espèce de jargon à elle, moitié parmesan, moitié italien, moitié français. C'était une espèce de sabie, yogourt, moldovalak, que personne ne comprenait. Et il y avait une chose très étrange, mon chien la comprenait.
Voilà. Il n'y avait pas de chien, je crois.
Il
n'y
avait
chez
pas
vous.
De chien, mais ce que j'entends là est très touchant. Je ne connaissais pas cet archive, mais c'est exactement ça.
Ouais.
C'est vraiment, moi je dis un sabir, mais c'est vrai. Et c'est matiné de plusieurs choses, hein, effectivement, l'intégration de quelques mots français, mais matiné d'italien, avec surtout du dialecte, quoi, parce que mes parents venaient d'une région entre Rome et Naples, la Ciociaria, et celle des films de De Sica, etc.
Ouais.
Et donc, voilà, on parlait plutôt ce langage-là à la maison, ce qui fait que même si je suis né en France, et même si j'ai parlé spontanément le français à la maternelle, je n'avais pas les mécanismes, l'inconscient du français. Je n'avais pas les expressions familières, etc. Donc, je ne pouvais pas leur demander non plus, quand on dit ça en français, est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà, ça a été... Bon, mais en même temps, voilà, ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est qu'on a été très très bien entourés par la communale, a fait un boulot inouï avec nous. Et
comment ils s'appellent? Les Vallons?
Les voisins. Il y a eu des voisins qui ont immédiatement été très très accueillants, ils ont senti que mes parents étaient démunis, ils étaient voilà, donc ils sont allés à l'épicerie, ils sont allés à l'école, ils sont occupés de démarches administratives. Et puis voilà.
Et vous écrivez à propos de ces voisins, je trouve qu'ils sont importants parce que vous dites au fond, quand il y a des débats et que j'entends dire que la France est raciste, je pense à eux. Ah bah, et il y a toujours une petite larme de reconnaissance
oui,
chez les Benacquista
quand
on parle d'eux.
Voilà, on est arrivés, ils sont occupés de nous. Et comme à l'école aussi. C'est-à-dire, voilà, ça a été. Et puis ils ont fait preuve de patience, quoi. Je veux dire, en tout cas, ça s'est bien passé. C'est au contraire mes parents qui ont eu plus de mal parce que c'était mon père voulait partir, ma mère non, et ce conflit qu'ils avaient déjà là-bas, ouais. Ils l'ont gardé en France.
Alors l'école, il y a quand même quelque chose d'ambivalent. L'école, elle a été beaucoup source de souffrance, me semble-t-il, pour vous, et notamment les livres obligatoires à lire. Vous parlez d'un livre de nouvelles de Balzac, auquel vous vous heurtez.
Oui.
Impossible de le lire,
ouais,
impossible.
Oui, c'est comme c'était des citadelles, c'était des monuments. Je me disais, là, je suis dans quelque chose de grave.
Ouais.
Et j'ai voulu décrire, mais par-delà moi, j'ai voulu décrire le désarroi d'un enfant qui s'attaque à un classique. Et qui, d'une certaine manière, n'y est pas préparé.
Ouais.
Et comment ses yeux vont accrocher la ligne? Il va essayer de comprendre cette ligne-là, la suivante, telle phrase. Et à un moment donné, c'est son estrie dans une page. Et il ne comprend pas pourquoi il perd le fil de sa concentration. Et il se dit, mais je suis plus idiot que les autres, puisque d'autres me parlent de ce bouquin et se sont régalés avec. Et donc, voilà. Et qu'on soit natif, pas natif, qu'on vienne de n'importe où et qu'on ait n'importe quelle culture, on peut être tout à fait inhibé par un monument national.
Et le bouquin qui est là, J-7 avant cours, J-5, J-3, et on n'y arrive toujours pas.
On n'y arrive toujours pas, on procrastine, et j'essaie, là, encore une fois, de décrire un mécanisme. Mmh. Pourquoi on vit cette culpabilité, on la subit en se disant, voilà, mais qu'est-ce que je vais faire le jour où je serai interrogé? Ce matin-là, on est tous censés l'avoir lu, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, quoi. Donc, mais en même temps, par-delà ça, c'est aussi la conquête du langage.
Bien
et
sûr.
Du beau langage, en plus. Hein, parce
Cyrano.
Que, voilà, Cyrano, c'est un éblouissement.
Bon, Cyrano, ça fait partie. Cyrano, Ray Bradbury et Andromaque. Ça fait partie des livres qui vous ont en partie débloqué.
Non, c'est-à-dire que c'est Cyrano qui a débloqué Andromaque, ouais. Si je peux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que la prof est la seule à comprendre ce qui se passe dans Andromaque.
Mais Andromaque, il y avait de l'envie, je trouve, par rapport aux autres.
Ouais. Ah oui, mais de toute façon, il y a toujours de l'envie. On se dit, voilà, ce sont des panthéons. Et puis, à un moment donné, par effraction presque, il y a Cyrano qui s'introduit dans la classe. Et à ce moment-là, le bretteur devient l'éloquence. Et puis on se dit, ah oui, tiens, c'est ça le style.
Il est le style, le respect, il l'obtient par le verbe. On continue cette conversation, mais je voudrais y associer les auditeurs. Et Marisa qui nous a appelé. Bonjour Marisa.
Bonjour.
Vous êtes, je lis ma petite fiche, issue de l'immigration sarde arrivée en France dans les années 60.
Tout à fait. Alors, je viens d'écouter le début de l'émission,
ouais.
Très, très émouvant pour toute personne qui a été confrontée à cette immigration. Alors moi, l'immigration, je l'ai vécue. Je suis partie à l'âge de 6 ans, donc j'ai un souvenir très, très vif encore de cette déchirure, de cette séparation. Et ce que j'entends de ce que dit Monsieur Benacquista, à la fois me touche beaucoup et il me rappelle plein de souvenirs parce que son expérience est l'expérience universelle de tous les enfants d'immigration. Moi-même, dès l'âge de 7 ans, j'ai, en tant qu'aînée, puisque c'était mon rôle, j'ai dû être l'écrivain public à la maison. C'est moi qui écrivais les lettres pour la famille en Italie. C'est moi qui remplissais les courriers de la sécurité sociale. Après, je serai plus nuancée sur les questions qui touchent aux solidarités. Moi, j'ai le souvenir. Alors, était-ce une spécificité de cette immigration du sud de l'Italie?
Oui.
J'ai été très, très confrontée à l'époque à la fois au racisme français. Moi, j'ai eu des enseignants qui, effectivement, m'ont permis de réaliser ce qu'on appelle le miracle de l'intégration républicaine. Mais j'ai aussi le souvenir d'enseignants extrêmement racistes qui, justement, ne supportaient pas qu'une petite Italienne avec des parents analphabètes deviennent dès le CM1 la première de la classe et surtout la première en français. Et d'autre part, j'ai aussi vécu le racisme et le rejet de l'immigration italienne du Nord. Moi, je me suis mariée à 20 ans avec un fils de l'immigration du Frioul et son père, lorsqu'il a su que son fils était amoureux d'une petite sarde, mais il a traité cette relation comme aujourd'hui certains Français traiteraient la relation d'un jeune Français avec un noir ou une personne issue de l'immigration.
Merci.
Donc,
Merci Marisa pour ce témoignage. Tony Benacquista, un mot de
oui, enfin, réponse. En tout cas, sur cette comment dire, sur le Nord-Sud en Italie, ouais. Hein, c'est quelque chose qui est
qui continue,
qui a toujours existé. Ouais. On voit. Et là, le film m'échappe, mais on voit ça très très bien dans Rocco et ses frères, par exemple. Oui. Voilà, ils viennent du sud, ils s'installent à Milan, et là, on voit très très bien qu'il y a ce conflit. Et de toute façon, en Italie, on est toujours au sud de quelqu'un. Enfin, on est plutôt toujours au nord de quelqu'un. Dire, mais moi, je suis au nord. C'est-à-dire qu'un Romain va dire, je suis au nord
du Napolitain,
ouais. etc., etc. Ouais. Donc ça existe et c'est italien. Maintenant, quant à moi, j'ai plutôt connu la solidarité. Il y avait des associations. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a des festivals de cinéma en France qui sont faits par des Italiens et descendants d'Italiens. Je n'ai pas ce souvenir là. Maintenant, je n'ai guère raconté que mon histoire.
La question des prénoms. Oui. Votre sœur Yolanda,
oui.
Qui choisit Yolande,
oui.
Qui le Francis, qui regrette parce que c'est le prénom de Dalida et que ça serait quand même super d'avoir le prénom de Dalida. Votre frère Giovanni qui se fait appeler Jean,
oui, oui.
Et chez qui on mange le dimanche du fromage et des plats français.
Oui.
Et vous, Tonino, alors vous avez cette expression, à chaque fois qu'on m'appelle, j'ai l'impression qu'on commande des spaghettis à l'évangolais.
Oui, mais ça c'est parce que je trouve que déjà Benacquista, c'est un nom qui est plutôt chantonnant, comme ça, avec plein de syllabes, avec plein de voyelles. Pardon. Ouais. Il rajoutait Tonino. C'est vrai que ça donne quelque chose, effectivement, d'assez musical, mais qui, d'une certaine manière, encourage à une espèce de familiarité qui est bienveillante, ouais. Hein, j'entends. Ma sœur m'a dit, mais non, t'aurais dû t'appeler Daniel. Ça aurait été, d'abord, c'était le prénom à la mode à l'époque. Et elle voulait absolument qu'on l'appelle Yolande. Bon, Clara s'est appelée Clara. Et voilà. Et bon, c'est pas du tout un prénom qui m'ennuie. Hein, mais je me suis dit déjà comment retenir un truc aussi long et aussi voilà.
Et ce qui est étonnant, c'est que chaque membre de la famille a fait son choix au fond.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont voté démocratiquement. Et puis à un moment donné, ma mère a dit non, il s'appellera Tonino. On ne sait pas pourquoi. Et puis voilà. Et maintenant, voilà, je suis assez content.
Il y a le courage de ceux qui partent et il y a le courage de ceux qui restent. Et qui sont les plus courageux? Bon,
On n'a pas de réponse, mais on parle jamais de ceux qui restent, en fait. Ouais. Effectivement, moi, quand j'allais donc en vacances en Italie, mon père ne faisait que ça. Il ne faisait que se comparer à ceux qui étaient restés.
Sans parler des ongles partis en Amérique et qu'on réussit.
Alors, ceux qui sont partis en Italie, mais ceux qui restent. Et tiens, mais si j'étais resté, quel aurait été mon devenir? Alors, c'est pour ça que je m'amuse, parce que j'écris des romans. Je me suis amusé à faire un peu du chrony à la fin en me disant, et s'ils étaient restés, et s'ils étaient partis aux États-Unis, mais heureusement qu'on a l'imagination et le roman et le romanesque pour imaginer ce que ça aurait pu être.
Et la fin, elle raconte aussi que vous êtes rattrapé par les démons de votre père et votre mère.
Oui.
Et cette phrase, page 118, étrange souci que de chercher en soi le sentiment d'appartenance au pays où l'on est né, puisque vous êtes né en France. Ça passe par un autre épisode, je voulais raconter plus vite, mais on est parti dans la discussion. 98, là vous avez une petite quarantaine d'années, Coupe du Monde, France-Italie.
Oui.
Le Corriere della Sera vous demande un compte-rendu.
Oui.
Vous vous mettez chez un copain qui tient un kiosque de presse près de Matignon.
Oui.
Il y a tous les gendarmes.
Oui.
En garde, qui abandonne le Premier ministre, qui vient de regarder le foot. Et alors, vous êtes pour qui?
Eh bien, justement, c'est-à-dire, je me questionne sur l'idée de ferveur. Mm. Je me dis que voilà, il y a pas plus de ferveur que dans le sport. Il y en a beaucoup plus que dans la culture, dans le cinéma, dans la cuisine. C'est dans le sport. Le sport cristallise un truc une espèce de vibration intérieure qui est inégalable. Et en l'occurrence, voilà, Corriere della Sera, je me dis, je prends un bloc-notes et je me dis, tiens, je suis pour quelle équipe là en ce moment? Et en fait, tous les gendarmes qui assurent la sécurité de Matignon s'entassent dans notre boutique et ils ont tous un fusil et ils sont tous. Et il y a 10 types qui sont en train de hurler au moment des tirs au but. Et je les regarde et je me dis, non seulement je suis en danger, là, mais en même temps, je me dis, c'est ça la ferveur. Là, voilà, la ferveur. Et la mienne, elle est anecdotique à côté.
Vous n'êtes pas allé en Italie depuis 40 ans, écrivez-vous?
Si, j'y suis retourné quand j'ai été couchettiste au wagon-lit. C'est-à-dire, j'y allais beaucoup. Oui, mais c'était il y a 30 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais j'y suis pas retourné. Je suis retourné à Rome il y a 2 ou 3 ans. La ville avait beaucoup changé. En bien, d'ailleurs.
Ouais.
Mais voilà, je j'y vais peu, ouais. Enfin, je me sens pas appelé là-bas. Je me sens pas. Mes frères et sœurs, oui, beaucoup plus que moi.
Porca Miseria, c'est donc publié chez Gallimard. Vous aurez compris que à la fois on rit et il y a beaucoup de passages très émouvants. Je voulais finir sur ce message de Jean-Philippe. On n'a pas le temps de prendre au téléphone. Votre roman Les Morsures de l'Aube a été un choc pour moi, dit-il. Ça prouve que Tonino Benacquista a compris ce monde de la nuit et de l'immigration. Merci à vous, Tonino Benacquista, d'être venu.
Merci beaucoup à vous.
Dans les studios de France Inter, 13h45.